Merci d'être à l'écoute de RFI, les 17h à Paris, 15h en temps universel, 18h à Beyrouth et 23h à Taipei. Le journal vous est présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, des frappes israéliennes dans le nord du Liban, de sources libanaises, elles auraient fait au moins 18 morts dans une région encore jamais frappée dans ce conflit. La Chine a déployé de nombreux avions et navires de guerre autour de Taïwan. Ces manœuvres militaires sont dénoncées par les États-Unis qui s'inquiètent d'un risque d'escalade. Également dans l'actualité de ce lundi, un chercheur français condamné à 3 ans de prison en Russie. Le droit d'asile remis en cause par le Premier ministre polonais. L'ouverture à Paris du Mondial de l'automobile. Et le prix Nobel d'économie remis à 3 économistes récompensés pour leurs travaux sur les différences de prospérité entre les nations. Israël a élargi aujourd'hui ses opérations contre le Hezbollah au Liban. L'agence Reuters rapporte que la région à majorité chrétienne d'Aïtou dans le nord du Liban a été pour la première fois frappée. Il y a au moins 18 morts selon le ministère libanais de la Santé. En guerre contre le mouvement chiite soutenu par l'Iran, Israël mène des opérations terrestres dans le sud du Liban, près de sa frontière. Des opérations qui ont provoqué de fortes tensions avec la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies chargée du maintien de la paix dans la région. Pas question pour autant de retirer des troupes de l'ONU déployées au Liban. C'est la position, entre autres, du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. On l'écoute.
Nous condamnons et nous continuerons à condamner avec la plus grande fermeté la déclaration faite hier par le Premier ministre Netanyahou, parce qu'il n'y aura pas de retrait de la FINUL, parce que notre engagement en faveur de la légalité internationale, dans les termes établis par la résolution 1701, a plus de sens aujourd'hui que jamais après avoir vu ce qu'il se passe sur le terrain.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, c'était ce matin lors d'un forum organisé par un groupe de médias à Barcelone. Côté français, Paris a exprimé sa vive préoccupation face à l'extrême gravité de la situation dans le nord de Gaza et condamné dans le même temps l'attaque du Hezbollah contre une base militaire en Israël. Hier soir, une frappe de drone contre une position de Tzahal au sud de Haïfa a tué 4 soldats israéliens et blessé plus de 60 personnes. La Chine a déployé ce matin des avions et des navires de guerre pour encercler Taïwan dans le cadre de manœuvres militaires présentées, je cite, comme un sérieux avertissement aux autorités de l'île. La Chine, qui d'après Taïwan a engagé 125 avions, déclare qu'elle a maintenant mené avec succès ses exercices. Réaction américaine, les États-Unis ont dénoncé des opérations injustifiées constituant un risque d'escalade et l'Union européenne, elle, a appelé toutes les parties à la retenue. La saison des Nobel se termine avec le prix d'économie. 3 économistes sont distingués cette année. L'américano-turc Daron Acemoglu et les britanno-américains Simon Johnson et James Robinson. Tous 3 seront récompensés pour leurs travaux sur la compréhension des différences de prospérité entre les nations. Explication Gali Bonin.
À travers leurs travaux, les 3 lauréats ont cherché à répondre à une question simple. Pourquoi y a-t-il des pays riches et des pays pauvres? Et pourquoi l'écart peine-t-il à se réduire? Pour y répondre, ils ont fait un travail d'historien. Ils ont examiné les différents systèmes politiques mis en place par les Européens dans leurs colonies et l'influence que ce genre d'institution a pu avoir sur le développement économique de ces pays. Un travail essentiel, souligne le comité qui a rappelé l'urgence de réduire les inégalités dans le monde. Des 3 lauréats, Daron Acemoglu, 57 ans, était le plus en vue pour ce prix. Il est connu pour ses nombreux travaux sur les régimes autoritaires et la manière dont les institutions démocratiques favorisent la prospérité. Il est professeur à la prestigieuse université américaine MIT, tout comme son co-lauréat Simon Johnson. James Robinson enseigne quant à lui à l'université de Chicago. Les 3 prix Nobel sont récompensés d'un chèque $1 million à partager entre les gagnants.
Gali Bonin du service économie de la rédaction. L'annonce par le gouvernement français d'une nouvelle loi immigration pour début 2025, cette annonce a beaucoup fait réagir dans la classe politique. Ce n'est pas totalement prioritaire, a estimé ce matin sur France Inter Gabriel Attal, chef de file des députés macronistes. À l'inverse, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est réjoui de cette annonce. Son parti est prêt à voter certaines mesures de cette loi, loi qui serait présentée un an seulement après le précédent texte sur le sujet qui avait fracturé la majorité au Parlement. Mais Jordan Bardella Bella, interrogé lui sur BFM TV RMC, a démenti une neutralité en échange sur le projet de budget 2025. En Pologne, le droit d'asile est remis en cause par le Premier ministre Donald Tusk. Il a profité du congrès de son parti ce week-end pour présenter une stratégie migratoire restrictive. Dans son viseur, les autorités biélorusses qui, avec la complicité de la Russie, poussent des migrants à la frontière polonaise dans le but de déstabiliser le pays. Mais la position de Donald Tusk a suscité de vives réactions chez les défenseurs des droits de l'homme. Le point avec, sur place à Varsovie, Adrien Sarla.
Quelques mois à peine après s'être opposé au pacte migratoire européen, Donald Tusk a créé la controverse ce samedi lors du congrès de son parti.
Un des éléments de notre stratégie migratoire consistera à suspendre temporairement le droit d'asile sur notre territoire. Et je ferai en sorte que l'Europe reconnaisse cette décision. Car on sait très bien comment Loukachenko, Poutine, les passeurs et les trafiquants d'êtres humains en profitent pour rendre le droit d'asile contre-productif.
Mais sa déclaration a fait bondir les associations humanitaires du consortium migratoire. Magdalena Nazimek dénonce l'une des plus graves atteintes aux droits de l'homme.
Cette idée de Donald Tusk viole complètement l'article 18 de la Charte européenne des droits fondamentaux. La personne qui ne sera pas en mesure de faire une demande d'asile sera emprisonnée à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, peu importe sa situation individuelle, c'est-à-dire quel que soit son état de santé, son histoire et la raison pour laquelle elle a quitté son pays.
Depuis le mois de juin, une zone tampon complètement militarisée borde déjà la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Selon les gardes-frontières, elle a déjà permis de réduire le nombre de traversées illégales de 70%. Adrien Sarla, Varsovie. RFI.
Le chercheur français Laurent Vinatier, condamné en Russie à une peine de 3 ans de prison. Il lui est reproché de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger. Ce spécialiste de l'Union soviétique a été arrêté en juin dernier, accusé d'infraction à la loi sur les agents d'étrangers. Loi utilisée à maintes reprises ces dernières années pour museler ou discréditer des opposants. Paris soutient que Laurent Vinatier est détenu arbitrairement et a demandé sa libération. Dans l'actualité judiciaire, la suite du procès des emplois fictifs au Parlement européen. C'est aujourd'hui que Marine Le Pen se retrouve face à ses juges dans cette affaire qui pourrait lui valoir l'inéligibilité. Le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde ont entamé ce matin à Paris une visite d'État de 3 jours en France. Officiellement, il s'agit d'approfondir la relation bilatérale, notamment en matière de défense et d'économie. Direction maintenant la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique. Le centre minier historique de Thiot, dévasté par les émeutes liées à la mobilisation contre la réforme du corps électoral, ce centre minier va être mis en sommeil. Annonce faite par la SLN, la société Le Nickel. Depuis sa création à la fin du 19e siècle, cette société n'avait jamais interrompu ses activités, même pendant les graves troubles des années 1980, dont Thiot était l'épicentre. On écoute la grande déception de Xavier Benoît, président de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie.
C'est une excellente image de la situation d'une Calédonie qui, économiquement et socialement, est en train de s'écrouler. La fermeture du site de Thiot, c'est lié à l'incapacité pour la société SLN d'accéder au site depuis le mois d'avril maintenant, et puis particulièrement depuis le début des exactions en mai 2024. Donc ben là, ça ne devient plus possible puisque le personnel du site était en chômage partiel et va passer maintenant en chômage total. L'impact économique de cette mise en sommeil, c'est plusieurs centaines de salariés qui vont partir en chômage total, qui viennent s'accumuler aux milliers de chômeurs qu'on est en train d'enregistrer en Nouvelle-Calédonie. On faisait le point encore ce matin et aujourd'hui, on a plus de 25 000 salariés en Nouvelle-Calédonie du secteur privé, qui sont soit en chômage partiel, soit en chômage total, ce qui représente plus de 40% des salariés du privé.
Un propos recueilli par Altine Lazage. Le mondial de l'automobile ouvre ses portes aux professionnels ce lundi à Paris. Il doit donner lieu à un face-à-face entre constructeurs chinois et européens dans un contexte de forte tension entre les deux. L'Union européenne se prépare à imposer de lourdes taxes douanières aux véhicules électriques produits en Chine. Le gouvernement chinois nie toute concurrence déloyale. Il devrait prendre des mesures de rétorsion. Enfin, en tennis, la hiérarchie mondiale est plus que jamais dominée par l'Italien Yannick Sinner, vainqueur du tournoi de Shanghai. Il est assuré de finir l'année au rang de numéro 1. Bientôt 17h10, ici à Paris. Je vous laisse en compagnie de Jean-François Cadet. Bonjour.
Bonjour et merci, c'était le journal de Gilles Moreau.